question sur le BRGM. Donc le BRGM, c'est l'établissement public de référence pour tout ce qui concerne les sciences de la Terre, donc avec pour objectif la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol. Historiquement, BRGM, ça signifiait Bureau des recherches géologiques et minières. Le statut, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC, qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Environnement. Les objectifs, donc il y a plusieurs objectifs. Le principal, c'est la compréhension des phénomènes géologiques, de pouvoir développer des méthodes et des techniques pour produire et diffuser des données et mettre à disposition ces données. On peut distinguer quatre missions au BRGM, donc la recherche scientifique, l'appui aux politiques publiques, la coopération internationale, et enfin une dernière mission qui est arrivée il y a quelques années seulement, c'est la prévention et la sécurité minière. Donc le BRGM est organisé en 8 services et départements qui couvrent globalement 10 thèmes liés aux géosciences, la géologie proprement dite avec la cartographie géologique, le captage et le stockage géologique du CO2 dans un contexte de changement climatique, la thématique aménagement et risques naturels donc, qui nous intéresse ce soir, les ressources minérales, les ressources en eau, tout ce qui touche à l'environnement et aux procédés industriels, la géothermie, la prémine donc, qui se charge de la mission prévention et sécurité minière, la métrologie de l'environnement et enfin tout ce qui concerne les systèmes d'information. L'organisation du BRGM, le siège social du BRGM est basé à Paris, mais on dispose d'un centre technique qui, lui, est basé à Orléans. Et en parallèle, donc, on a un réseau de services géologiques régionaux, donc chaque région métropolitaine et chaque département d'outre-mer dispose d'un service géologique en local. Et donc par-dessus ça, ce qu'on a sur la carte de droite, c'est les implantations des services chargés de la prévention et de la sécurité minière. Donc 4 sites pour cette mission. Donc je vais maintenant passer aux argiles à proprement parler. Donc je vais commencer par rappeler un peu la nature et les mécanismes du phénomène de retrait-gonflement. On évoquera ensuite le coût de cette sinistralité à l'échelle de la France. Puis le programme national de cartographie de l'aléa qui a été mené par le BRGM. Donc ensuite, je passerai la parole à ma collègue Delphine Dugrillon qui vous parlera plus précisément de l'aléa retrait-gonflement dans la région Poitou-Charentes. Et ensuite, on verra de manière plus concrète comment gérer ce problème, soit dans un contexte de construction neuve, soit dans un contexte d'une construction existante qui peut éventuellement se fissurer. Donc on finira en évoquant quelques recherches qui sont en cours sur ce phénomène de retrait-gonflement. Donc qu'est-ce que le retrait-gonflement ? C'est un phénomène de mouvement de terrain qui est en fait lié à des variations de volume des minéraux argileux avec leur teneur en eau. Donc en effet, les matériaux argileux ont tendance à gonfler, à prendre du volume lorsqu'ils s'hydratent, et au contraire, ils vont avoir tendance à subir un retrait, donc à perdre du volume, lorsqu'il se dessèche. Donc c'est ce qui se traduit comme sur cette photo par des fissures de dessiccation, ce qu'on peut voir classiquement au fond d'une mare qui s'assèche. Donc ça c'est la manifestation du phénomène dans un plan horizontal. Ce qui est moins perceptible, c'est qu'on a le même phénomène dans un plan vertical, donc on a des mouvements verticaux du sol. Ce phénomène, il est connu depuis déjà quelques décennies, puisqu'il a été mis en évidence dans les années 50 dans les argiles de Londres, en Angleterre. On peut le rencontrer un peu partout dans le monde, parfois avec des petites variantes. Donc il faut par exemple savoir que sous un climat aride, on a des sols qui sont globalement dans un état sec et on va avoir des mouvements qui vont surtout intervenir lors des périodes humides. Par contre, sous nos climats qui sont plus tempérés, on considère qu'on a des sols qui sont plutôt proches de leur état de saturation, qui sont plutôt humides, et que c'est les épisodes de sécheresse qui vont générer des mouvements significatifs. Alors brièvement, qu'est-ce qu'une argile ? Donc, on peut déjà définir une argile comme étant une classe granulométrique, donc tous les éléments du sol qui sont inférieurs à 2 microns, mais c'est également une famille de minéraux. Enfin, oui, voilà, il y a plusieurs familles de minéraux au sein des argiles, et toutes ne sont pas sensibles aux variations hydriques de la même manière. Donc, les minéraux argileux sont composés de feuillets, d'empilements de feuillets, et ces empilements vont avoir plus ou moins plus ou moins de capacité à absorber de l'eau. Donc, plus ils auront de capacité à absorber de l'eau, plus ils auront tendance à subir des phénomènes de gonflement. Donc là, par exemple, on a indiqué quelques chiffres pour trois familles très classiques de minéraux argileux, la kaolinite, l'illite et la smectite. La kaolinite, c'est des minéraux argileux qui sont quasi insensibles aux variations hydriques en termes de variations de volume. Ils ont une surface spécifique très faible, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de surface pour échanger de l'eau avec le milieu. Les illites, c'est des minéraux argileux qui sont un petit peu plus sensibles. On voit qu'ils ont une surface spécifique légèrement supérieure. Et les smectites, c'est la famille type de minéraux gonflants. Donc on peut distinguer également plusieurs sortes de smectites. Mais là, on a des minéraux qui sont, eux, très sensibles aux variations hydriques. En termes de mouvement, on peut également distinguer plusieurs phénomènes. C'est un phénomène relativement complexe. On va avoir, par exemple, un gonflement cristallin qui va se traduire par une absorption d'eau dans les espaces interfoliaires, c'est-à-dire c'est les feuillets qui vont vraiment s'écarter et gagner du volume. Mais on a des phénomènes qui se passent à une autre échelle. Par exemple, ça peut être la répulsion entre les particules. Donc là, on a des phénomènes qui sont plus à l'échelle des agrégats d'argile, qui vont avoir tendance à s'écarter les uns des autres en présence d'eau et de cations. Alors, si on revient à l'échelle de la maison, comment se traduit le phénomène de retrait-gonflement ? Donc, ce qu'on a vu, c'est le facteur de prédisposition, c'est les argiles, à la fois en termes de proportion, de continuité et de nature des minéraux argileux. Donc, c'est bien la géologie des formations superficielles qui gouverne le phénomène. Par-dessus ces facteurs de prédisposition, on va avoir un certain nombre de facteurs de déclenchement. Donc le principal, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'extraction de l'eau du sol, en particulier par les conditions météorologiques. Mais on va avoir, en plus des conditions météorologiques, un certain nombre de facteurs d'amplitude parfois très très locales. Ça va être par exemple les arbres. Donc on sait que les arbres ont tendance à extraire de l'eau du sol, parfois en quantité très très significative. Les circulations d'eau souterraine, les activités humaines, par exemple l'installation d'un drainage, un remaniement, parfois des canalisations aussi qui cassent et qui injectent de l'eau de manière localisée dans le sol. Donc on a des facteurs de déclenchement qui sont souvent très locaux, avec un facteur de déclenchement global qui est la météorologie. Donc à l'échelle d'une maison, les mouvements verticaux vont être hétérogènes pour plusieurs raisons. D'une part, on a une imperméabilisation du sol au moins sous la maison. Donc le sol qui est immédiatement situé sous la maison est protégé de l'évapotranspiration. Donc on va avoir tendance à très peu bouger, alors que par contre sur les pourtours de la maison, on va avoir des mouvements beaucoup plus significatifs. Donc on a vraiment des tassements différentiels à l'échelle de la maison. On peut également avoir une influence de la géologie. Donc si un sol est hétérogène, par exemple sur ce schéma, on a représenté la limite d'un sol argileux et une maison qui est implantée au niveau de cette limite. Donc forcément, la partie de la maison qui est sur sol argileux va avoir tendance à bouger, alors que l'autre va être beaucoup plus stable, d'où apparition de désordre sur l'habitation. Pareil, le cas d'un arbre donc, qui va venir capter de l'eau sous la maison et qui va provoquer des désordres. Donc les désordres, ils affectent essentiellement les maisons individuelles. Donc ça peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. C'est un bâti qui est relativement vulnérable vis-à-vis de ce type de sollicitation. On a des constructions qui sont légères, qui sont ancrées relativement superficiellement, qui sont parfois sujettes à des défauts de conception, voire à des malfaçons, et qui sont relativement peu rigides, donc qui encaissent mal les sollicitations mécaniques. Les désordres qu'on observe, ils se manifestent typiquement par des fissurations au niveau des façades et des cloisons, donc ce qu'on peut apercevoir sur les diverses photos. Ça, c'était une maison qui était sinistrée dans le département du Cher. Celle-ci, c'était dans le Nord-Pas-de-Calais, donc un sinistre assez important. Alors, celle du Cher a dû être abattue. Il a été considéré qu'elle était dans un état... enfin, il n'était pas rentable économiquement de la redresser. Bon, là, on a une photo en Afrique où on a également ce type de phénomène. Donc, typiquement, fissuration des façades et des cloisons, une distorsion des huisseries, donc les fenêtres et les portes qui ferment mal, décollement des bâtiments annexes, par exemple, si on a un garage accolé à l'habitation, on voit le garage qui se désolidarise, avec parfois des fissures qui se propagent de part et d'autre sur chacun des bâtiments, des ruptures de canalisation, qui en plus vont avoir l'effet pervers d'injecter de l'eau de manière localisée dans le sol. Sur certains cas importants, on peut également avoir des désordres au niveau du toit, donc obligé de refaire le toit. Ce qui est assez caractéristique du phénomène de retrait gonflement, c'est que les manifestations sont cycliques, enfin souvent sont cycliques, puisqu'elles suivent le cycle des saisons. Donc on constate typiquement des fissures qui s'ouvrent en période estivale, quand c'est sec, et qui se referment en période hivernale, en période humide. L'expérience montre que les désordres ont plutôt tendance à s'aggraver au cours du temps, au fur et à mesure que la structure perd de sa rigidité. Si on n'intervient pas, les fissures s'agrandissent. D'autres victimes du retrait gonflement, c'est les réseaux et la voirie. Donc sur les routes, on voit classiquement ce type de fissures. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Donc, pardon. Des fissures longitudinales assez caractéristiques du phénomène. Bon, à gauche, c'est une photo qui a été prise à Madagascar, qui est encore plus parlante. Donc ça, on voit ça classiquement dans certaines régions. Ça dépend également de la structure de la route et de la manière dont elle a été conçue. On peut avoir des fissures transversales, mais les fissures horizontales sont assez caractéristiques du retrait gonflement. Pour revenir aux maisons, que faire face à un sinistre ? Il faut savoir qu'un simple rebouchage des fissures, c'est en général inefficace, tant qu'on n'a pas éliminé la cause des désordres. Donc, ce qui est en général réalisé par les bureaux d'études géotechniques, c'est identifier l'origine du sinistre. Donc, ça peut être un problème de canalisation, ça peut être un problème d'arbre, un arbre implanté à proximité immédiate de la maison. Si on a pu identifier ce facteur de déclenchement, on y remédie. Et une fois qu'on a supprimé le facteur de déclenchement et qu'on a laissé la situation se stabiliser, là, on peut envisager de reboucher les fissures. En règle générale, il est assez difficile d'identifier un facteur qui provoque le sinistre. Donc les moyens qui sont mis en œuvre sont relativement lourds. Donc c'est coûteux et assez délicat à mettre en œuvre. En général, ce sont des reprises en sous-œuvre, c'est-à-dire qu'on va aller installer ce qu'on appelle des micropieux, donc des pieux sous les fondations de la maison, de manière à les ancrer beaucoup plus profond, parfois à 10 mètres de profondeur. Et donc dans certains cas extrêmes, je l'ai déjà évoqué, on a été amené à décider de détruire pour reconstruire certaines maisons qui étaient considérées comme irrécupérables. Donc le coût moyen d'un sinistre est estimé, suivant les sources, à un petit peu plus de 10 kilos euros. Alors maintenant, pour évoquer le coût de ce risque naturel à l'échelle de la France, je vais rappeler quelques mots sur le régime des catastrophes naturelles, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Donc c'est un régime qui a été institué, qui a été créé en 1982, et qui vise à assurer la protection des biens et des assurés contre les dégâts causés par des événements naturels exceptionnels. Donc là, c'est une notion qu'il est assez utile d'avoir en tête pour ce qui concerne le retrait gonflement, dans le sens où les sécheresses, à partir de quand on peut juger qu'elle est exceptionnelle, c'est assez difficile à juger. Ce régime est basé sur le principe de la solidarité nationale, c'est-à-dire que tout un chacun paye le même prix et ça sert à indemniser ceux qui en ont besoin. Pour ce qui est du retrait gonflement, ce risque naturel est pris en compte au titre des catastrophes naturelles depuis 1989. Les principales périodes qui ont donné lieu à des reconnaissances CatNat, comme on dit, c'est la fin des années 89, début des années 90, la fin des années 90 suivant les régions, et surtout l'été 2003 avec sa célèbre canicule. Donc c'est les principales périodes de sinistralité à l'échelle de la France, sachant que, suivant les régions, on peut avoir un certain nombre de disparités. Donc les reconnaissances de catastrophes naturelles pour la sécheresse, on y reviendra après, elles sont basées notamment sur la vérification de la présence d'argile à l'échelle de la commune et sur un critère météorologique basé sur le réseau Météo France, critère qui a été amené à évoluer au cours du temps également. En termes d'impact financier, le coût est estimé depuis 1989 à 4,5 milliards d'euros. Donc c'est une estimation de la Caisse centrale de réassurance, dont plus d'un milliard pour le seul été 2003. Donc ça en fait le deuxième poste d'indemnisation dans le cadre du régime CatNat, derrière les inondations, à quasi-égalité. Depuis 1989, donc il y a à peu près 8000 communes qui ont déjà été reconnues en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse, et un nombre d'occurrences qui est de l'ordre de 18 000. Donc ce qu'on appelle occurrence, c'est en comptant le nombre d'arrêtés par commune. Donc il faut savoir qu'il y a certaines communes qui ont déjà été reconnues plus de 15 fois pour ce phénomène depuis 1989. Donc là, on a une carte qui représente représente un peu la répartition géographique des coûts liés au retrait gonflement. Donc la carte n'est pas tout à fait d'actualité. On peut voir que la région qui coûte le plus cher pour ce phénomène, c'est l'Île-de-France, ce qui peut s'expliquer par un contexte géologique défavorable et surtout par une urbanisation intense. Et le deuxième secteur qui est très concerné, c'est le sud-ouest de la France, disons Midi-Pyrénées-Aquitaine, où il y a également énormément de désordres depuis 1989. C'est là qu'on trouve les communes qui ont été reconnues plus de 15 fois en France. Alors je vais m'attarder un petit peu sur l'été 2003, puisque ça a constitué un épisode assez exceptionnel à plusieurs points de vue. Donc c'est un événement qu'on a identifié en temps réel en termes de canicule, de par ses conséquences. Donc il y a eu des conséquences sociales avec les décès qu'on connaît tous. Des conséquences économiques, notamment au niveau de la consommation d'énergie, des conséquences environnementales, donc par exemple les incendies, la fonte des glaciers, etc. Ce qui n'a pas forcément été perçu immédiatement, mais on s'en est rendu compte après, c'est que ça avait également eu des fortes conséquences en termes de catastrophes naturelles par retrait gonflement. Donc en effet, ça a provoqué une vague de sinistres sans précédent. Il y a eu à peu près 8000 communes sur les 36 000 françaises qui ont posé une demande de reconnaissance CatNat pour l'été 2003. Donc sur cette carte, ça correspond en fait aux communes affichées en rouge et en violet. C'est toutes les communes de France qui ont demandé un CatNat pour l'été 2003. Celles qui sont en bleu sont celles qui avaient déjà été reconnues auparavant, mais qui n'ont pas refait de demande, donc il n'y en a pas beaucoup. On voit que la plupart des communes qui avaient fait une demande avant ont redemandé un CatNat pour 2003. Donc celles-là, c'est celles qui sont en violet. Et en rouge, c'est toutes celles qui n'avaient jamais demandé de CatNat et qui en ont demandé un pour 2003. Donc on a vraiment eu une extension du phénomène à partir de cette période. Si on s'intéresse à la météorologie, on a eu une année 2002 qui était plutôt humide. Le début de l'année 2003 était légèrement déficitaire en termes d'humidité, mais ce n'était pas forcément si flagrant. L'été, lui, donc, il a été très fortement déficitaire, mais uniquement sur quelques mois. Et la fin d'année est revenue à un stade relativement conforme aux normales saisonnières, voire un petit peu plus humide. Donc c'est surtout par les températures estivales que se distingue l'année 2003. On a eu de nombreux records de températures un peu partout en France. Et surtout, ces températures très supérieures aux normales se sont prolongées sur une durée significative, sur plusieurs semaines. Donc c'est un événement qui a été extrême puisqu'il a impacté de très très nombreux bâtiments. On estime qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de bâtiments touchés. Si on s'intéresse un peu au panorama des désordres qui ont eu lieu lors de l'été 2003, on se rend compte que ça a sinistré à la fois des maisons, disons, récentes, mais également des bâtiments anciens, voire très anciens, qui n'avaient jamais bougé a priori depuis leur construction. On a eu par exemple de très vieilles églises qui ont été évacuées suite à la canicule de l'été 2003. D'anciens sinistres qui avaient été stabilisés, réparés et qui se sont réactivés lors de cette sécheresse. Des bâtiments assez importants, disons des bâtiments lourds qui sont en général épargnés par le phénomène ont également été concernés. En termes d'extension géographique, on a eu un impact quasi national. avec une large propagation du phénomène vers l'est de la France, donc notamment en Bourgogne-Franche-Comté, dans la plaine de la Bresse, où on a pu recenser plusieurs milliers de sinistres qui étaient tous apparus lors de l'été 2003, alors que le phénomène était quasi inconnu jusque-là. Donc c'est vraiment un épisode extrême en termes d'intensité et d'extension géographique. Alors, quelles ont été les conséquences de l'été 2003 ? Déjà, le régime des catastrophes naturelles a été un peu mis en difficulté, dans le sens où on s'est rendu compte que face à une telle vague de sinistres, un tel coup, on n'était pas forcément armé pour pouvoir gérer les indemnisations. On s'est également rendu compte qu'on connaissait relativement mal le phénomène, et donc on a dû adapter les critères de reconnaissance CatNat qui étaient utilisés jusque-là. Donc les critères qui étaient utilisés précédemment étaient adaptés à des sécheresses prolongées, pas forcément très intenses, mais qui pouvaient se prolonger sur plusieurs mois et plusieurs années. Or l'été 2003, on a vu que ça a été une sécheresse extrêmement intense, mais extrêmement courte, donc il a fallu revoir entièrement les critères. Donc au final, plus de 50% des communes qui avaient demandé une indemnisation ont obtenu satisfaction. Donc là, sur cet histogramme, on a représenté par mois le nombre de communes reconnues pour le retrait gonflement depuis 1989. Donc on voit qu'on avait une importante sinistralité dans les années 90 qui s'était un peu effondrée. Et on voit nettement le pic de 2003 se distinguer, donc avec un record. Donc face au nombre de sinistres qui n'avaient pas pu être indemnisés dans le cadre du régime CatNat, l'État a mis en place une procédure exceptionnelle qui a permis d'indemniser directement un certain nombre de sinistrés qui étaient situés hors de ces communes. Donc il y a eu plus de 12 000 bénéficiaires qui en ont profité, ça représentait 218 millions d'euros. Et donc la conséquence psychologique, disons, de l'été 2003, c'est une forte prise de conscience de l'importance de ce phénomène en termes de coûts, et surtout de son étendue vis-à-vis à l'échelle de la France, disons. Il peut impacter n'importe quel point en France. Alors je vais faire une petite digression sur un travail qui a été réalisé il y a 2 ans. Donc c'était un groupe de travail qui était réuni à l'initiative du ministère de l'Écologie et qui cherchait à chiffrer les conséquences du changement climatique vis-à-vis des risques naturels. Donc il y a eu un volet qui a concerné le retrait gonflement des argiles. Donc je vais passer relativement brièvement. La démarche qui a été mise en œuvre, ça a été de considérer comme scénario climatique, donc, avec toutes les incertitudes qu'il y a bien sûr, que c'était la fréquence des canicules qui allait augmenter. Donc on allait utiliser les éléments de la canicule 2003 et on allait augmenter leur fréquence pour chiffrer les conséquences à plus ou moins long terme. Donc l'échéance finale est en 2100. Donc 2 scénarios ont été envisagés sur la base des travaux du GIEC. Le premier scénario, c'était qu'on arriverait en 2100 à une canicule type 2003, une année sur deux. Et le second scénario, un petit peu moins pessimiste, annonçait une canicule type 2003, une année sur trois à l'horizon 2100. Donc je vais passer sur les détails. On a travaillé donc à partir de cartes d'aléas, des données de sinistres et des différents coûts auxquels on a pu avoir accès, que ce soit les coûts nationaux ou les coûts régionalisés, disons, pour aboutir à un certain nombre de conclusions. Donc on a pu constater, suivant les scénarios, que le coût du changement climatique le coût annuel du retrait gonflement dans un contexte de changement climatique pourrait augmenter entre 20 et 220% suivant le scénario qu'on adopte. En 2100, ça correspondrait à un coût qui serait multiplié entre 3 et 6. Donc ça, c'était les premiers chiffres qu'on a obtenus sans prendre en compte l'évolution du bâti. On a ensuite essayé de prendre en compte l'évolution de l'urbanisation, l'extension des zones urbaines. Ça augmenterait encore de 17% ces coûts sur la période 2010-2030. Et donc après, on s'est intéressé à une sectorisation de ces résultats en utilisant des chiffres départementaux. Donc là, on a pris un exemple un peu au hasard, c'est la Charente-Maritime. Les résultats ont montré qu'on pouvait attendre par exemple 14 800 sinistres d'ici 2030 en cumulant les effets du changement climatique et les constructions nouvelles. Donc c'est pour obtenir un ordre de grandeur de ce que peut induire le changement climatique vis-à-vis de ce phénomène. Donc, par contre, c'est vraiment des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes. Il faut bien avoir conscience des limites des méthodes qui ont été mises en œuvre. On a juste répercuté les conséquences de l'été 2003 de la même manière, sans prendre en compte une éventuelle amplification ou atténuation du phénomène. On ne sait pas bien comment réagiraient les sols dans un tel contexte. Si on avait une canicule une année sur deux, on aurait tendance à avoir des sols beaucoup plus secs, donc une modification totale des phénomènes. Les scénarios de changement climatique, donc dans quelle mesure sont-ils pertinents? On a vraiment pris des scénarios très simples puisque Météo France ne pouvait pas trop s'avancer sur ce type d'aspect, sur les canicules. Donc c'est des résultats limités, mais qui montrent que dans un contexte de changement climatique, on peut avoir des coûts qui peuvent être multipliés par 6 à l'horizon 2100, alors qu'en 2003, on a déjà frôlé la limite du régime. Le régime CatNat était déjà menacé. Donc je vais conclure sur cette introduction, enfin, sur cet aspect. Donc le retrait gonflement, c'est un phénomène qui est très courant en France et ailleurs dans le monde, qui est très coûteux, mais qui ne menace pas la vie humaine, enfin du moins en France. Il n'y a jamais eu de mort par retrait gonflement en France, même si c'est arrivé dans certains pays que des bâtiments s'effondrent sur les habitants. L'été 2003, ça a été un événement majeur à la fois en termes d'intensité et en termes d'échelle. Il a remis en cause un certain nombre de connaissances, puisque jusque-là, on connaissait les sécheresses type, donc qui étaient relativement modérées, mais longues, qui se prolongeaient sur plusieurs mois, et que là, on a eu un épisode de sécheresse extrême, très intense et très court. Les conséquences sont encore visibles, on peut encore voir des sinistres qui sont non stabilisés, et des gens qui sont en train de démarcher avec les différents assureurs. Et donc je vais maintenant passer aux actions du BRGM sur le retrait gonflement. Donc je vais commencer par le programme de cartographie de l'aléa retrait gonflement. Et j'évoquerai ensuite les actions de recherche qui sont en cours en cours ou passé sur ce sujet. Donc si on s'intéresse à la répartition géographique du phénomène. Donc là, sur la carte de gauche, on a représenté par commune le nombre d'occurrences CatNat, donc pour le régime CatNat, qui ont eu lieu depuis 1989. Et donc la carte de droite, c'est la carte géologique de la France à l'échelle du millionième. Donc on constate un certain nombre de corrélations avec des bassins de risque qui sont assez bien identifiés, qui correspondent assez bien à la carte géologique de la France. Donc si on se regarde un peu plus dans le détail, voilà, au niveau des formations argileuses, disons vues à échelle nationale, on peut distinguer les régions de socle, donc c'est par exemple le massif armoricain, la Bretagne au sens large, la Corse, bon, qui n'apparaît pas sur cette carte, mais qui est également une région de socle, le massif central, donc là on a des roches qui sont en général non argileuses, donc relativement épargnées par le phénomène, sachant toutefois qu'on peut avoir présence d'altérite, donc une dégradation de la roche qui va produire des minéraux argileux qui peuvent localement générer des désordres. Mais on n'est pas dans des formations argileuses à proprement parler. Et on constate bien sur la carte des catastrophes naturelles que ces régions sont relativement épargnées. Il n'y a jamais eu d'arrêté CatNat en Corse à ce jour. Il y en a très peu en Bretagne, ça se limite quasiment à l'Ille-et-Vilaine. Dans le massif central, il y a également très peu de désordres en dehors de la plaine de la Limagne et du département de l'Allier, qui est un petit peu, disons, à l'extérieur de la zone de socle. Donc, parmi les autres bassins de risque, moi, je ne vais pas tous les détailler, on a donc des formations permo-trias avec des marnes et dolomies, qui peuvent être potentiellement sujettes au retrait gonflement. Les formations jurassiques, donc, qui font toute la couronne du bassin parisien, qui vont être représentés par des calcaires et des marnes. Donc c'est des formations qui vont être, suivant les faciès, plus ou moins sensibles au phénomène. Les formations du Crétacé, donc c'est notamment en Picardie, on a des formations de craie très épaisses, on les retrouve un peu partout sur les pourtours du bassin parisien. Les dépôts de craie, suivant les secteurs, peuvent être argileux et sensibles au phénomène. C'est par exemple le cas en Bourgogne, où on a des craies du Cénomanien qui sont relativement sensibles à la dessiccation. Les formations secondaires et tertiaires, bon, c'est voilà, les formations tertiaires du bassin parisien. Donc là, on a un bassin sédimentaire très argileux qui, en plus, est très urbanisé, d'où un nombre impressionnant de désordres et de catastrophes naturelles. Le bassin aquitain qui est également très concerné, avec notamment la région Midi-Pyrénées. Donc là, c'est surtout les formations de molasses qui posent souci. Bon, ce qu'on ne voit pas sur la carte géologique, c'est des formations quaternaires qui, elles, sont présentes un peu partout sur le territoire, puisque c'est par exemple les formations d'alluvions qui accompagnent les rivières, les colluvions, etc. On peut toujours retrouver un peu d'argile dedans, et des désordres, de manière localisée, peuvent intervenir un peu partout. Donc on a vraiment une bonne corrélation entre les grands bassins géologiques et les bassins de risque qu'on peut voir sur la carte des occurrences CatNat. Donc on va partir de la géologie pour la cartographie de l'aléa. Pour rappeler les données qui sont disponibles en matière de géologie, donc il y a des cartes géologiques qui existent à différentes échelles. Il y a par exemple la carte de France au 1 millionième, c'est celle qu'on vient d'apercevoir. Des cartes un peu plus locales, au 250 millième, voire au 80 millième. Et enfin des cartes locales, donc c'est des cartes au 1 50 millième. Qui sont édités par le BRGM, et le territoire français est quasi intégralement couvert, à quelques exceptions près. Donc voilà un aperçu de cartes géologiques. Donc là, c'est plus précisément un raccord entre deux feuilles, puisque les cartes géologiques se présentent sous la forme de feuilles papier de quelques centaines de kilomètres carrés chacune. Donc le lever de ces cartes, il est fait au 1 25 millième, mais l'édition se fait au 50 millième. Elles sont désormais exploitables directement en numérique sous système d'information géographique. Donc on a des cartes vecteurs qui peuvent être traitées de manière automatisée. Donc une étape amont va consister à harmoniser ces feuilles entre elles pour produire une carte géologique départementale, une carte harmonisée. Donc en plus de ces cartes géologiques, les autres données plus ponctuelles qui peuvent être disponibles ou exploitées, ce sont les données de sondage, donc notamment les données de la banque des données du sous-sol qui est gérée par le BRGM. Donc cette banque des données recense l'intégralité des sondages de plus de 10 mètres de profondeur qui sont réalisés en France, d'après le code minier. D'autres données peuvent être collectées auprès des différents services de l'État, des bureaux d'études. Donc ça peut être des données de sondage, des essais de laboratoire, voire juste la localisation des sinistres, c'est déjà une information. Et enfin, on pourrait mettre en œuvre des moyens géophysiques à une échelle locale pour caractériser au mieux les formations géologiques. Donc le programme de cartographie de l'aléa. Alors, juste une définition auparavant. L'aléa, ce qu'on appelle l'aléa dans la gestion du risque, c'est la probabilité d'occurrence du phénomène. Donc dans le cadre de ce programme, on n'a pas directement accès à l'aléa, on essaye de l'approcher de manière qualitative. Donc la méthodologie qu'on met en œuvre, c'est une méthodologie qui a été élaborée à la fin des années 90, à échelle communale puis à échelle départementale sur le département des Alpes de Haute-Provence. Elle est basée sur l'analyse des cartes géologiques au 1 50 millième, donc c'est la donnée la plus fine qu'on ait qui couvre l'intégralité du territoire français. La réalisation de ces cartes, elle est assurée par les services géologiques régionaux du BRGM, avec une coordination nationale par le service risque naturel. Donc ce programme de cartographie, il a été initié par le ministère de l'écologie depuis 1998, la première carte qui a été publiée. Le programme est cofinancé par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, donc plus connu sous le nom de Fonds Barnier, qui est dédié à la prévention des risques naturels, et par le BRGM. Donc initialement, ce programme devait concerner uniquement les départements les plus concernés en France, ceux pour lesquels les coûts d'indemnisation étaient les plus conséquents. Suite à la canicule de l'été 2003, il a été décidé d'étendre ce programme de cartographie à l'intégralité du territoire métropolitain, à l'exception toutefois de la ville de Paris, qui reste hors de ce programme. L'habitat individuel restant très, très ponctuel sur la ville de Paris. Donc je vais présenter la méthodologie qui est mise en œuvre. Donc La donnée de base qu'on va valoriser, ce sont les cartes géologiques en un 50 millième. Donc voilà un aperçu, ça c'est dans le secteur de Nice, le raccord de quatre feuilles géologiques à l'échelle de quelques communes. La première étape qu'on va mettre en œuvre, c'est donc l'harmonisation géologique que j'ai déjà évoquée pour produire une carte géologique départementale. Donc voici un aperçu de la carte géologique départementale des Alpes-Maritimes. Donc là, on a rabouté les différentes feuilles entre elles, on a élaboré une légende commune, on a raccordé les contours pour avoir une information homogène à l'échelle du département. À partir de cette carte géologique départementale, on va établir la carte des formations argileuses, c'est-à-dire qu'on va créer une base de données avec l'intégralité des informations disponibles sur les différents sols. On va les traiter, on va éventuellement grouper certains faciès qui vont avoir un comportement similaire vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Et on va ne garder donc que les grandes formations argileuses qui vont être exposées au phénomène. Donc voilà un aperçu de la carte des formations argileuses dans ce secteur. Donc à cette échelle, on ne voit pas très bien. Ici, il y a des secteurs en fait qui sont blancs, donc qui ont été considérés comme non argileux, donc non exposés au phénomène. Ces formations argileuses, on va maintenant les hiérarchiser sur la base d'un certain nombre de critères. Donc je ne les ai pas détaillés ici. On utilise essentiellement trois critères. Donc, il y a un critère lithologique qui va prendre en compte la nature de la formation. Donc, on va s'intéresser à la proportion d'argile qu'elle contient, à la continuité des passées argileuses, à leur épaisseur. Et on va attribuer pour ce critère lithologique une note comprise entre 1 et 4. Une note de 1, c'est une formation qui est peu argileuse ou qui est globalement non argileuse mais qui peut contenir localement de l'argile. Et une note de 4, c'est une formation qui est très argileuse, épaisse, continue. Voilà. Un second critère donc, qui est mis en œuvre, c'est un critère minéralogique. Là, on va s'intéresser au type de minéraux argileux qu'on peut rencontrer dans la formation. Donc pour ça, il y a différentes démarches. On consulte la bibliographie scientifique qui peut exister dans le secteur. On effectue quelques analyses, donc c'est des diffractions aux rayons X, pour identifier les minéraux argileux qui sont présents dans les échantillons. Et on collecte également auprès des universitaires, des bureaux d'études, un maximum d'analyses qui sera disponible pour pouvoir caractériser au mieux toutes les formations argileuses. Donc ça, c'est le second critère, le critère minéralogique. Et le troisième critère qu'on utilise, c'est un critère géotechnique. Donc là, on va chercher à collecter un maximum de résultats d'essais de laboratoire obtenus sur le département. Donc là, par exemple, sur cette carte, tous les petits points bleus, ça correspond à un prélèvement sur lequel on a réussi à obtenir un résultat de laboratoire. Donc on s'intéresse à plusieurs essais, les plus courants, donc ceux qui sont en général valorisés, puisque c'est ceux qui sont classiquement réalisés par tous les bureaux d'études, c'est l'indice de plasticité et la valeur de bleu de méthylène. Mais on a d'autres essais qui pourraient être valorisés si on en avait des échantillons représentatifs. Donc on a trois critères pour chaque formation argileuse, ce qui va nous permettre de hiérarchiser l'ensemble des formations argileuses pour produire la carte de susceptibilité. Donc ça va être une carte qui va indiquer vraiment sur la base de caractères intrinsèques au sol, à la géotechnique, la susceptibilité des différents secteurs au phénomène de retrait-gonflement. Donc voilà l'aperçu de la carte de susceptibilité dans ce secteur de Nice. Donc on a les secteurs blancs qui correspondent aux secteurs qui ont été jugés a priori non argileux, donc non exposés au phénomène. En jaune, on a les secteurs qui sont dits à susceptibilité faible, donc qui sont potentiellement exposés, bien que ce ne soit a priori pas les pires. En orange, la susceptibilité moyenne, et en rouge, la susceptibilité forte, donc les sols les plus sensibles au phénomène. En parallèle, on travaille à recenser et localiser l'ensemble des sinistres qui ont pu avoir lieu sur le département. Donc voilà dans le secteur de Nice les sinistres qui ont pu être recensés, tous les petits points verts. Donc pour mémoire, dans le département des Alpes-Maritimes, on a dû recenser de l'ordre de 2000 sinistres. Donc c'est un département relativement concerné. Une fois qu'on a la localisation de ces sinistres, on va la croiser avec les zones urbanisées, donc qui sont représentées en noir sur cette carte, et on va déterminer pour chacune des formations argileuses une densité de sinistres, en prenant en compte évidemment l'urbanisation, de manière à pouvoir comparer entre elles les différentes formations. Donc, pour chaque formation argileuse, on connaît une densité de sinistre pour une surface bâtie. Et après, donc, on va croiser la carte de susceptibilité qu'on avait précédemment établie sur la base de critères liés au sol avec ces densités de sinistre pour produire la carte d'aléa qui, elle, va donc approcher la probabilité d'occurrence du phénomène par l'intermédiaire de cette densité de sinistre, cet aspect un peu statistique. Et l'échelle de validité de cette carte d'aléa, c'est le 1/50 000. Donc là, on a représenté sur cette carte, ce sont les sinistres sur la carte de susceptibilité. Et donc voilà la carte d'aléa qui en résulte. On constate en général que la carte d'aléa est relativement peu différente de la carte de susceptibilité. C'est en partie lié au fait qu'il a été choisi dans la méthodologie d'attribuer un faible poids à ce critère de densité de sinistre. C'est-à-dire qu'on considère que cette densité de sinistre va juste apporter une correction sur le premier jugement qui a été apporté à travers la susceptibilité. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a eu quelques changements. C'est notamment des formations qui étaient ici en orange, donc en susceptibilité moyenne, qui finalement, du fait qu'elles soient relativement peu sinistrées, sont tombées en aléa faible sur la carte finale. Donc l'échelle de validité de cette carte d'aléa, c'est le 1/50 000, puisque c'est l'échelle de la donnée de base qui est valorisée, la carte géologique. Donc on verra par la suite comment ces cartes d'aléa peuvent être valorisées pour proposer des zonages réglementaires communaux, donc pour l'établissement de plans de prévention des risques naturels. Donc, alors le slide s'appelle avancement du programme, mais le programme est désormais achevé, puisque le dernier département a été publié il y a une semaine ou deux. Donc il y a 95 départements qui ont été couverts entre 1998 et 2010, donc tout le territoire métropolitain hors ville de Paris. L'outre-mer n'est pas inclus dans ce programme à ce jour, tout simplement parce qu'il y a très peu de problèmes vis-à-vis de ce phénomène qui ont été observés dans l'outre-mer. On peut également noter que 7 départements ont fait l'objet d'actualisations. Donc c'est notamment en Île-de-France où les cartes ont été réharmonisées une fois que la région a été couverte. On a parfois intégré de nouvelles données, ça a été le cas dans les Bouches-du-Rhône par exemple, ou dans le Vaucluse. Donc 7 départements comme ça ont vu actualiser leurs cartes au vu de nouvelles données. On revoit apparaître les secteurs les plus exposés en France, donc par exemple le département du Nord qui est particulièrement concerné. L'Île-de-France, voilà, avec le zoom ici, on rencontre également quasiment que des formations argileuses et qui sont en plus très, très construites. La région centre, Poitou-Charentes, qui n'est pas épargnée, et Midi-Pyrénées. Donc c'est les principales régions françaises concernées. On peut également noter la présence de la plaine de la Limagne en Auvergne, qui est extrêmement, extrêmement sinistrée et dans lesquelles on a effectivement rencontré des sols très très sensibles. Donc toutes ces cartes d'aléa, elles sont publiées sur Internet, donc sur le site dont l'adresse est indiquée ici, www.argile.fr. Donc ce site a été mis en place à la demande du ministère de l'Écologie. Il permet de consulter et télécharger librement ces cartes d'aléa. On peut également consulter et télécharger les rapports qui accompagnent ces cartes d'aléa. Donc pour chaque département, il y a un rapport qui explique quels ont été les sols rencontrés, les données valorisées et les décisions prises. C'est un site qui est relativement fréquenté, avec un public assez varié, puisque bon, à travers les mails qu'on reçoit via ce site, on se rend compte que c'est utilisé à la fois par des professionnels de la construction, des assureurs, des particuliers, soit en amont de construction, soit des particuliers exposés à des problèmes sur leur maison. Les élus également, les pouvoirs publics à échelle régionale ou départementale. Donc le public est vraiment très varié, c'est un site qui est extrêmement fréquenté. Et je vais maintenant passer la parole à Delphine pour ce qui concerne plus précisément la région Poitou-Charentes.
Donc moi, avant de vous présenter la cartographie de l'aléa, donc zoomée sur la région Poitou-Charentes, un bref rappel de la géologie régionale. Donc, on se trouve à une charnière entre deux bassins sédimentaires, le bassin parisien au nord de la région et le bassin aquitain au sud. Et puis, à l'est et à l'ouest de la région, vous trouvez les deux massifs anciens, un massif armoricain et le massif central. Ensuite, on va trouver sur ces formations anciennes les calcaires du Jurassique, donc ce que vous trouvez, ce que vous voyez en bleu sur le sur la carte, puis des formations du Crétacé au nord et au sud, où on trouvera plutôt des marnes et des calcaires, et enfin les formations tertiaires qui sont plus en jaune et en beige. Voilà. Donc au niveau de la réalisation de la cartographie de l'Aléa pour la région Poitou-Charentes, donc comme Sylvestre vous disait, donc au niveau de la France c'est terminé, au niveau du Poitou-Charentes, on a terminé par le département de la Charente en 2007. Ensuite, on peut dire également qu'au niveau du département des Deux-Sèvres, c'est un des départements qui a été utilisé pour mettre en place la méthodologie. Donc il a été réalisé, il a été finalisé en 1998, donc a été réalisé entre 1996 et 1998. Le deuxième département qui a été traité ensuite, c'est celui de la Vienne, donc, qui a été donc rendu en 2002, puis la Charente-Maritime en 2003, et donc comme je vous le disais, la Charente en 2007. Donc l'ensemble de ces, comme vous avez pu le constater, l'ensemble de ces cartographies et les rapports sont consultables et téléchargeables sur le site Argile. Donc quelques éléments au niveau de la cartographie de l'Aléa. Donc comme on vous le disait, c'est une région qui n'est effectivement pas épargnée. Si je résume un petit peu sur le département de la Vienne, on constate qu'il y a 75% du département, de la superficie du département qui est concernée par un aléa, ce qu'on appelle un aléa non nul, donc de faible à fort. Donc au niveau des pourcentages des superficies, l'aléa fort représente 8,5% de la superficie du territoire et l'aléa moyen près de 35%. Au niveau de... au niveau des chiffres sur la reconnaissance, les reconnaissances CatNat, donc, on constate effectivement que le département le plus touché dans la région, c'est le département de la Charente-Maritime, avec 322 communes sur les 472 qui ont déjà été reconnues en état de catastrophe naturelle. Puis vient le département de la Vienne, qui se trouve être le 9e département français. La Charente-Maritime, c'est le 4e département français. Et puis, on trouve ensuite le département des Deux-Sèvres avec 167 communes sur les 307 du département. Et enfin, le département de la Charente, qui est en 22e position nationale. Ensuite, quelques informations sur les coûts d'indemnisation dans la région. Au niveau du département de la Charente, donc 33,3 millions d'euros ont été consacrés à ces indemnisations, donc 30e département. Qu'est-ce qu'on peut dire également, donc, c'est à peu près équivalent entre Charente-Maritime, Vienne, donc 20e et 21e département français, avec plus de 75 millions d'euros consacrés aux indemnisations. Et puis le département des Deux-Sèvres. Donc au niveau des sinistres, effectivement, on est pour trois départements sur les quatre de la région, on est à plus de 1000 sinistres recensés. Donc ces états datent globalement à part pour le département de la Charente, mais datent n'ont pas intégré les sinistres qui sont survenus en 2003. Donc ce qui est pourtant assez conséquent, la Charente-Maritime compte 1706 sinistres répertorié lors de la cartographie de l'Aléa qui a été établie en 2002. Voilà, donc pour conclure ces chiffres, on constate effectivement que cette région est très concernée avec 807 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle sur cette problématique. 226 millions d'euros consacrés à l'indemnisation. Et donc 5000 sinistres localisés, donc sans compter ceux de l'année 2003. Au niveau de ce phénomène de retrait-gonflement dans la région, plusieurs actions ont été mises en œuvre et seront encore mises en œuvre, notamment au cours de l'année 2011. On peut noter notamment des plaquettes d'information, donc c'est ce que j'ai là sur la table, qui ont été établies par la DDTM de la Charente-Maritime. Donc la DDTM, c'est l'ex-DDE. C'est une plaquette qui est assez simple, c'est pour grand public, avec juste donc, la cartographie de l'aléa du département et puis quelques informations simples de construction et d'organisation de l'environnement autour d'une habitation pour pallier à ce et pour éviter ces phénomènes. La DTTM avait également mis en place des réunions d'information auprès des élus pour vraiment sensibiliser la population, pour faire redescendre les informations auprès de la population sur ce phénomène. Il est prévu également en début de cette année 2011 d'envoyer des courriers d'information, de rappeler aux élus l'existence de ces phénomènes et l'envoi des cartes zoomées sur leur commune, de ces cartographies de l'aléa. On sait également que les professionnels de la construction, comme l'agence qualité construction, fait régulièrement des informations auprès de ces des professionnels, notamment des constructeurs de pavillons. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres actions de prévention que vous avez peut-être entendu parler. Voilà.
Je vais parler maintenant de quelques aspects un peu pratiques quand on est amené à se poser la question du retrait gonflement. Et on va commencer par le contexte d'une construction nouvelle. Donc l'étape préliminaire, c'est de bien choisir son terrain, qui peut être, suivant les secteurs, suivant la géologie, suivant le contexte, plus ou moins gorgé d'eau, plus ou moins sensible au gel. Là, c'est plus une notion de géographie et d'altitude. Il peut être plus ou moins souple, comme on dit dans le métier de la construction, c'est-à-dire plus ou moins plastique, argileux. Sa géologie peut être très hétérogène à l'échelle d'une parcelle. On a parfois des lentilles argileuses, plusieurs lentilles argileuses sur une même parcelle. Il peut être également un peu compact, car il a été remanié sans qu'il y ait eu de stabilisation par la suite. Et sur un autre volet, il peut être également pollué. Il peut être pollué par des argiles, mais il peut aussi être pollué par des produits chimiques. Donc là, il y a un certain nombre de guides qui peuvent être consultés. On a cité par exemple le guide de l'AQC, donc l'Agence Qualité Construction, bien choisir un terrain pour construire une maison solide, donc qui est téléchargeable à l'adresse indiquée ci-dessous, un peu longue. Et un autre guide de l'INC, ça doit être l'Institut National de la Consommation, il me semble, sous réserve. Qui traite du même sujet. Donc c'est un peu l'étape amont. Quand on veut construire, il faut bien se poser la question de la nature du terrain. La seconde étape, c'est la connaissance du risque. Où se renseigner pour avoir une idée de l'exposition au risque. Donc là, on peut dire que la première chose à faire, c'est de se renseigner sur l'existence éventuelle d'un PPR sur la commune. Donc un PPR, c'est un plan de prévention des risques. On peut également se renseigner au niveau des parcelles voisines pour savoir s'il y a déjà eu des désordres de ce type. On peut rechercher des données qui seraient disponibles en termes de géologie et géotechnique dans le secteur intéressé. Et enfin, on peut être amené à se poser la question de faire une étude de sol sur sa parcelle. Donc le PPR, le plan de prévention des risques, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil réglementaire qui est prescrit par l'État et qui va permettre d'imposer des mesures constructives spécifiques. Donc il y a plusieurs types de PPR qui existent. Il y en a ce qu'on appelle des PPRI pour les inondations. Il y a des plans de prévention des risques également pour tout ce qui concerne les mouvements de terrain, les cavités souterraines. Et donc il existe un type de PPR qui s'intéresse à la sécheresse et au retrait gonflement. Donc un PPR, ça comporte trois éléments. Un zonage réglementaire, c'est-à-dire la carte des zones réglementées. Donc on a un aperçu global ici, avec deux zones réglementées et ici une zone non réglementée, puisqu'elle n'est pas colorée. Une note de présentation qui, elle, va présenter le phénomène, la manière dont a été établie la cartographie, les limites de la méthode et l'esprit des mesures qui sont imposées. Et enfin, le règlement qui, lui, fixe les règles qui sont à respecter dans les zones concernées. Un PPR, bon, c'est un cycle de vie, c'est prescrit par l'État, par l'intermédiaire du préfet. Il y a une concertation, une enquête publique auprès des habitants de la commune, puis une approbation à partir de laquelle le PPR devient réglementaire. Donc il devient, on est obligé de suivre les consignes, le règlement du PPR. Pour savoir si une commune est soumise à un PPR, il suffit de se renseigner donc soit en mairie, soit auprès de la DDT, ou DDTM quand on est au bord de la mer, soit auprès de la préfecture. On peut également consulter la base Gaspard du ministère de l'écologie, donc elle est téléchargeable à l'adresse www.prime.net.fr. Prime.net, pardon, il n'y a pas de FR. Donc c'est une base qui recense un certain nombre d'informations sur les risques naturels à l'échelle des communes françaises. Donc on peut également consulter l'ensemble des arrêtés de reconnaissance CatNat qui ont eu lieu pour tout type de phénomène sur des communes françaises. Et enfin, il y a la loi information acquéreur locataire qui fait que si vous êtes acquéreur, enfin si vous portez acquéreur ou locataire d'un bien immobilier, la présence d'un PPR doit vous être signifiée. Donc à ce jour, il y a en France un petit peu plus de 2000 PPR prescrits et il y en a à peu près 1000 qui sont approuvés, c'est-à-dire qui sont déjà réglementaires, qui sont en vigueur. Donc on les a représentés sur cette carte. Donc les départements qui sont grisés sont les départements qui se sont déjà lancés dans des PPR sécheresse et les communes qui sont en bleu sont les communes qui sont d'ores et déjà dotées de PPR sécheresse. Donc en Poitou-Charentes, il n'y a pas de PPR ni prescrit ni approuvé à ce jour. On peut noter qu'il y a deux départements qui sont intégralement couverts par des PPR, qui sont c'est le Tarn et le Tarn-et-Garonne dans le sud-ouest. Donc on est dans la région la plus concernée en France. Alors quelques mots sur ces PPR sécheresse. En fait, c'est le zonage réglementaire qu'on a aperçu tout à l'heure est directement issu des cartes d'aléas qui sont établies dans le cadre de notre programme national. En effet, il a été décidé que compte tenu de l'ampleur limitée de ce risque naturel, dans le sens où il ne porte pas atteinte à la vie humaine, on pouvait faire avec une relative imprécision. Sur le zonage réglementaire. Donc on part d'une carte qui est valide à l'échelle du 50 millième et qui va devenir réglementaire à l'échelle du 10 millième. Voilà. Donc voilà la manière dont la carte se décline en zonage. On passe de 4 niveaux d'aléas, on va dire. Il y a l'aléa nul, faible, moyen, fort. Et on va se ramener à 2 zones réglementées. Donc on va avoir la zone B1, donc celle qui est affichée en bleu foncé sur cette carte, c'est dans le secteur de Chambord. La zone B1, donc affichée en bleu foncé, ça correspond aux zones fortement exposées, c'est-à-dire aux zones identifiées comme étant en aléa fort. Et la zone B2, en bleu clair, correspond aux zones faiblement à moyennement exposées. Donc les aléas faibles et moyens sont regroupés dans une seule et unique zone. Du fait du changement d'échelle, les contours sont corrigés de 50 mètres terrain. Donc ça correspond en fait à l'épaisseur du trait quand on passe du 50 millième au 10 millième. Mais c'est vraiment une déclinaison automatique de la carte d'aléa départementale en zonage communal. Donc l'avantage de cette démarche, c'est que ça peut être fait en automatique. Une fois qu'on a la carte départementale, on peut proposer des zonages pour toutes les communes du département. Le règlement du PPR sécheresse, donc il existe un règlement type qui a été élaboré en concertation entre un certain nombre d'organismes sous la tutelle du ministère de l'écologie. Ce règlement type, donc la dernière version date de 2008 sur les conclusions d'un groupe de travail qui s'est réuni toujours avec le ministère. Ceci dit, c'est une proposition de règlement type qui peut être adaptée par les services de l'État suivant les secteurs s'ils le jugent utile. C'est par exemple le cas, je pense notamment au département 31 à Toulouse, donc ça doit être Lot-et-Garonne si je ne me trompe pas, où le règlement utilisé est légèrement différent du règlement type, puisqu'ils ont déjà fait un certain nombre de PPR, ils ont une certaine expérience, donc ils se sont permis d'adapter certains points. Le règlement des PPR sécheresse, il concerne essentiellement les constructions nouvelles, puisqu'on considère que ça va être là qu'il y a un gros enjeu vis-à-vis de la sinistralité, enfin de la prévention. Et l'esprit de ce règlement, c'est d'inciter fortement à faire des études de sol avant une construction. Il n'y a pas de miracle. Le seul moyen d'avoir un diagnostic à l'échelle de la parcelle pour le retrait-gonflement, c'est une étude de sol. Donc, à défaut d'étude de sol, le règlement propose un forfait de mesure qui peut être adopté en l'état. Donc, on les verra par la suite. Qui permettent de se passer d'études de sol. Donc voilà un arbre de décision qui est réalisé par le ministère de l'écologie pour guider un peu la réflexion quand on est amené à se poser cette question. Je souhaite construire une maison individuelle, donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Le premier, c'est de faire une étude géotechnique sur la parcelle, donc c'est une étude géotechnique G11. En fait, il y a une classification des études géotechniques. La G11, c'est la plus simple, c'est vraiment un diagnostic de la parcelle peu approfondi. Donc si ce diagnostic montre que la parcelle ne renferme pas d'argile, on est libre de toute contrainte vis-à-vis de la réglementation. Si par contre l'étude G11 montre la présence d'argile, on revient à l'autre choix. L'autre choix, c'est de nouveau études géotechniques. Donc là, cette fois, c'est un peu plus approfondi. C'est des études G12, G2, G3. C'est différents stades d'études géotechniques qui vont aller jusqu'au dimensionnement du chantier et surtout au suivi de l'exécution du chantier. Et à défaut de ces études géotechniques, on propose un forfait de mesure qui est censé permettre de se protéger du phénomène si on adopte toutes les mesures sans exception. Donc l'esprit de ces PPR, c'est vraiment étude de sol, et à défaut, on laisse une porte de sortie par un forfait de mesure. Là, j'ai parlé des PPR, je reviens sur les questions à se poser quand on veut construire. Il peut être intéressant de se renseigner pour savoir s'il y a déjà eu des désordres sur les parcelles voisines. Ça peut être un indicateur de sol argileux, même s'il faut bien avoir conscience que... Les formations géologiques ont des limites, on peut avoir des variations latérales de faciès, des plaquages argileux qui ne sont pas homogènes. On peut également rechercher si la commune a déjà fait l'objet de reconnaissance de catastrophes naturelles, c'est un bon indice. Donc là, on peut consulter la mairie ou la base Gaspard, il y a la même faute, sur prime.net. On peut mener une enquête de voisinage, etc. Quelles sont les autres données disponibles qui peuvent être consultées? Donc les cartes d'aléas retrait-gonflement qui sont accessibles à tout un chacun sur www.argile.fr. Voilà, sur argile.fr. On peut également consulter les cartes géologiques. Donc ces cartes sont consultables sur le site InfoTerre, dont l'adresse est indiquée ici. On peut consulter les données les sondages qui sont recensés par la banque des données du sous-sol sur le même site InfoTerre. Donc là, on a des informations qui sont précises, mais ponctuelles, donc on n'a pas d'informations partout. Et on peut également rechercher des études géotechniques qui auraient été menées sur des parcelles voisines, par la commune, etc. Donc ça donne déjà des indices de présence d'argile et de caractérisation des argiles. Quelques mots sur l'étude de sol. Donc on parlait tout à l'heure de l'étude de sol G11, c'est un diagnostic sommaire de la parcelle. Donc là, l'objectif, ça va juste être de vérifier la présence de sol argileux sensible au retrait-gonflement d'envisager la question de leur hétérogénéité à l'échelle de la parcelle. Donc ce type d'étude est conseillé dès qu'on se pose une question sur le caractère argileux d'une parcelle. Dans ces études peuvent être menées quelques sondages et quelques analyses de laboratoire, ça dépend un peu des bureaux d'études. Pour contacter un bureau d'études géotechniques, il y a plusieurs moyens. On peut contacter l'USG, donc c'est l'Union syndicale géotechnique, ou encore Syntec Ingénierie, c'est un peu des syndicats de géotechniciens qui regroupent la quasi-totalité des bureaux d'études privés. où on peut tout simplement chercher sur géotechnique sur les pages jaunes. Donc le coût d'une telle étude, bon, c'est très variable suivant les régions, suivant les bureaux d'études géotechniques. C'est typiquement compris entre 1500, 2000 et 3000 euros. Donc c'est quelques milliers d'euros, mais comparé au prix de réparation d'un sinistre, ça peut être très intéressant. Deux mots rapidement sur deux essais géotechniques que j'ai déjà évoqués. C'est ceux qui sont les plus valorisés dans le cadre de la cartographie de l'aléa. Les limites d'Atterberg. Donc on va distinguer deux seuils. La limite de retrait et la limite de liquidité, c'est des caractéristiques au niveau de la consistance du matériau. Et si on fait on va caractériser l'étendue du domaine plastique par la différence entre les deux. Un second essai qui est très utilisé, c'est la valeur de bleu de méthylène. Donc là, on va caractériser la capacité du matériau à absorber un colorant, donc le valeur de bleu de méthylène. Donc plus il pourra en absorber, plus il sera sensible à l'eau. Donc là, on a mis pour mémoire le barème qui est utilisé dans nos cartes d'aléa. Une valeur de bleu inférieure à 2,5, on considère que c'est une faible susceptibilité. Et quand la valeur de bleu devient supérieure à 8, on considère que la susceptibilité est très forte. Un autre point important quand on veut faire construire, c'est de bien choisir le professionnel, le constructeur. Donc là, il y a également un certain nombre de documents qui peuvent être consultés, toujours sur le site de l'INC ou de l'AQC, l'Agence Qualité Construction. Il faut faire attention à tout ce qui est maison en série. Quand on signe un contrat chez soi ou dans une foire, il faut savoir que le constructeur est tenu de s'adapter au sol. Donc il est au moins tenu de savoir sur quel type de sol il s'engage. Il faut bien vérifier les références du constructeur, quels sont les chantiers réalisés, vérifier surtout qu'il est à jour de ses attestations d'assurance, enfin de ses cotisations d'assurance. Un autre point important, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il y a des règles de construction qu'on appelle les DTU, documents techniques unifiés, qui malheureusement pour les constructions individuelles ne sont pas obligatoires. Donc le seul moyen qu'elles soient obligatoires pour les constructions individuelles, c'est que ce soit spécifié dans le contrat passé avec le constructeur. On peut également souscrire une assurance dommage ouvrage qui peut permettre de résoudre des problèmes en cas de sinistre. Il ne faut pas hésiter à faire une étude géotechnique complémentaire si on sent qu'on va avoir des problèmes, si on constate qu'on a un sol argileux, peut-être une structure un peu faible. Le bureau d'études pourra effectuer un diagnostic à la parcelle et donner les conseils pour un bon dimensionnement. Les experts signalent également qu'il faut, veiller à la bonne exécution du chantier, notamment la gestion des eaux. Ils constatent qu'il y a beaucoup de chantiers qui prennent énormément de temps, où on voit de l'eau qui s'infiltre, qui se réévapore, etc. Donc un terrain qui est déstabilisé dès le début. Donc au-delà de l'étude géotechnique G11, on peut envisager des études géotechniques plus approfondies. Donc la G12, c'est une étude d'avant-projet. La G2, c'est le projet, et la G3, c'est une étude qui va permettre de suivre en plus l'exécution du projet. Donc ces différents stades d'études qui sont préconisés par les PPR argile, mais en l'absence de PPR argile, on peut quand même que les recommander. Les moyens de se prémunir contre le retrait gonflement, ça va consister à adapter les fondations, notamment à les approfondir, donc ce qui est couramment recommandé. C'est en zone B2, donc dans un PPR argile, ça veut dire en zone faiblement à moyennement exposée, aléa faible et moyen. On va avoir des fondations à 80 cm de profondeur minimum. Et en zone fortement exposée, en aléa fort, on va les mettre à 1,20 m au minimum. Donc c'est des profondeurs qui sont pas si excessives, mais qui sont rarement, en tout cas qui étaient rarement respectées il y a quelques années. En termes de réalisation, les fondations doivent être armées et bétonnées à pleine fouille, avec si possible mise en place d'un. Je trouve plus mon mot. Enfin, en tout cas, sans laisser le terrain s'imbiber d'eau entre le creusement de la fouille et la mise en place de la fondation. C'est un cas classique de sinistralité. Au niveau de la conception de la maison, on va éviter toute dissymétrie dans la structure. Donc ça va se traduire, par exemple, sur ce schéma, on a un terrain en pente. La tendance générale, instinctive, disons, ça va être de mettre des fondations amont et aval à la même cote. Donc une maison parfaitement symétrique au premier abord. Sauf qu'on va se retrouver avec le terrain en pente, avec des fondations amont qui vont être beaucoup plus profondes que des fondations aval qui, elles, vont être quasiment posées sur le sol. Donc là, il faut penser à approfondir les fondations aval pour qu'on ait une profondeur d'ancrage homogène entre l'amont et l'aval. Toujours afin d'éviter les dissymétries dans l'ancrage des fondations, on va éviter les sous-sols partiels. C'est une grosse cause de dissymétrie. La partie de la maison qui est située sur le sous-sol va être stabilisée parce qu'elle va avoir des fondations très profondes, alors que l'autre partie va être fondée beaucoup plus superficiellement, donc va bouger fortement. On va privilégier les planchers sur vide sanitaire, les sous-sols complets. On peut continuer à effectuer des dallages sur terre-plein moyennant le respect d'un certain nombre de règles. Donc ça relève des règles de l'art. Au niveau de la structure, pour améliorer la capacité de l'habitation à encaisser des sollicitations, on va imposer des chaînages horizontaux et verticaux au niveau des murs porteurs. Donc là, c'est des mesures qui rejoignent un peu les mesures parasismiques. On cherche à améliorer la rigidité de l'ensemble. Dans le cas de bâtiments à coller, on pense à installer un joint de rupture entre les deux bâtiments. C'est pas très cher et ça peut éviter un certain nombre de soucis. On va également travailler sur la maîtrise de l'environnement hydrique de la maison. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont imposées dans le cadre des PPR argile. Ça va être, par exemple, on va d'éloigner les drains à au moins 2 mètres de tout bâtiment pour éviter qu'ils ne perturbent l'état hydrique du sol au droit de la maison. On va également éloigner tout ce qui est rejet d'eau, que ce soit les eaux pluviales, les eaux usées, etc. Donc, si possible, rejet au caniveau. Rejet au réseau. Et si ça s'avère impossible, rejet à une distance suffisante de l'habitation, donc au moins 10 mètres de l'habitation. On va également veiller à l'étanchéité des canalisations enterrées en installant des raccords souples au niveau de ces canalisations. Ce qui est également préconisé, c'est l'imperméabilisation du sol sur les pourtours immédiats de la maison, soit en installant un trottoir périphérique sur tout le tour de la maison, soit en installant une géomembrane enterrée. Donc là, on va éloigner le problème, puisque le sol ici va être protégé des échanges hydriques, donc va rester dans un état relativement stable. Donc on stabilise le massif de sol qui soutient la maison. Un cas un petit peu particulier, c'est le cas d'une chaudière en sous-sol. Il faut penser à mettre une isolation thermique si elle est à proximité d'un mur, puisqu'on a déjà vu des sinistres apparaître, parce que la chaudière, en chauffant, faisait assécher le sol du côté où elle était placée et provoquait des désordres. Un autre volet important, c'est la végétation, les arbres. Donc, ils sont très gourmands en eau. D'après les règlements PPR sécheresse, il faut pas planter d'arbres à moins d'une fois sa hauteur à l'âge adulte de la maison. Donc, si on prévoit que l'arbre fasse une taille H, il faut qu'il soit éloigné d'au moins H mètres de la maison. Donc, c'est un petit peu plus en cas de rideau d'arbres, c'est une fois et demie. À défaut, on peut garder des arbres à proximité de la maison si on installe un écran anti-racine sur une profondeur de 2 mètres, donc qui va protéger le massif de sol. Un autre cas un peu particulier, mais qui apparemment est relativement important d'après les experts, c'est le cas des terrains récemment défrichés. Si on a une parcelle boisée, qu'on abat tous les arbres, enfin si on a une parcelle boisée, le sol reste dans un état relativement sec. Donc en abattant tous les arbres, on va avoir un sol qui va avoir tendance à se réhumidifier, à gonfler. Donc il vaut mieux attendre que l'équilibre hydrique soit revenu pour construire la maison, sous peine de voir une maison neuve cassée par gonflement du sol. Donc attention à la gestion des eaux pendant la durée du chantier. Donc voilà, un aperçu d'eau stagnante sur un chantier, c'est jamais très bon sur sol argileux. Il vaut mieux agir vite en isolant le sol au maximum. Donc on peut installer par exemple un béton de propreté après ouverture des fouilles, pour prendre le temps ensuite d'installer les fondations. Quelques mots quand on est propriétaire d'une habitation. Alors au niveau des PPR sécheresse, il y a très peu de contraintes qui sont imposées aux bâtiments existants. L'objectif, ça a été de considérer qu'on allait essayer de ne pas aggraver la vulnérabilité du bâti existant, c'est-à-dire qu'on ne va pas empirer la situation. Donc les mesures qui sont imposées sont relativement simples et finalement relèvent du bon sens. C'est par exemple une étude géotechnique obligatoire si on fait des travaux qui vont jouer sur les profondeurs d'ancrage des fondations. Pas de nouvelles plantations d'arbres à proximité immédiate des bâtiments. Pour les arbres existants, on peut les laisser à condition de les maintenir élagués. Lors des interventions sur les réseaux enterrés, on va installer des raccords souples. Et autant que possible, on va éviter les variations saisonnières d'humidité, donc par des rejets ou par des pompages trop proches de l'habitation. Donc c'est des mesures qui restent relativement peu contraignantes, qui n'imposent pas de gros travaux au niveau du bâti existant. En cas de désordre sur une maison, deux pistes. C'est le régime 4 nattes, faire une demande de reconnaissance 4 nattes. Et une autre piste, c'est si la maison a moins de 10 ans, de faire intervenir la garantie décennale du constructeur, donc son assurance, voire la dommage ouvrage du propriétaire s'il en a pris une. Alors rapidement, la procédure 4 nattes, donc le particulier doit signaler les désordres auprès de la mairie. La mairie va regrouper les dossiers et transmettre l'ensemble à la préfecture. Donc c'est ensuite la préfecture qui transmet ces dossiers au ministère de l'Intérieur. Si la commune n'a jamais été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse, il faut pouvoir vérifier la présence d'argile sur le territoire communal via le site internet www.argile.fr, ou à défaut fournir une étude de sol qui montre que effectivement, malgré le site argile, des argiles ont déjà été observées sur la commune. Donc ensuite, c'est au niveau de l'État, il y a une commission interministérielle qui examine les dossiers et qui va statuer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Donc sur la base de ce critère présence d'argile, est-ce qu'on a pu prouver la présence d'argile, et également sur la base d'un critère météorologique, donc à partir des données du réseau Météo France et d'un modèle relativement simple à double réservoir. La décision est ensuite publiée au journal officiel et en cas favorable, le sinistré a 10 jours pour signaler les désordres à son assurance qui va ensuite faire intervenir un expert pour vérifier qu'effectivement les désordres sont bien imputables au phénomène RG en termes de date, de cause, etc. Il faut savoir qu'en termes de catastrophe naturelle, il y a une franchise qui reste habituellement à la charge du particulier qui est de 380 euros. Mais pour la sécheresse, cette franchise est de 1520 euros. Donc ça reste non négligeable pour le particulier. Il y a de plus un système de modulation de franchise qui a été mis en place en 2000 et qui fait qu'à partir du troisième arrêté 4 nattes en 5 ans, cette franchise est doublée. Donc elle passe à plus de 3000 euros. Et elle est ainsi triplée et quadruplée aux arrêtés suivantes. Donc ça devient vite très très conséquent. Donc en fait, cette mesure a été prise pour inciter à la prescription de plans de prévention des risques, puisque si un plan de prévention des risques est prescrit et approuvé dans un délai raisonnable, ce système de modulation de franchise s'arrête. Je vais passer rapidement sur les aspects assurance. Et je vais dire quelques mots sur la recherche en cours sur le retrait gonflement. Il y a plusieurs questions qui restent en suspens sur cette problématique. Donc tout d'abord, la grande question de la caractérisation d'un sol à la parcelle. Donc on a maintenant, sur tout le territoire français, des cartes d'aléas départementales. On réfléchit à comment on pourrait les affiner pour obtenir une information plus fiable, qui serait notamment exploitable à l'échelle de la parcelle. Il y a également un certain nombre de laboratoires qui réfléchissent sur les différents essais en laboratoire et in situ, pourrait permettre de caractériser au mieux le phénomène et donc de proposer des classifications pour hiérarchiser les différents types de sols. Vis-à-vis du déclenchement du phénomène, il y a également un certain nombre de verrous qui existent toujours. Comment se déclenche un sinistre? Est-ce que c'est la cinétique du phénomène qui est prépondérante? Est-ce que c'est son amplitude? Comment se propage le front de dessiccation dans un sol argileux? C'est relativement complexe à mettre en évidence. La quantification du rôle aggravant d'un arbre pour une maison. Comment caractériser une sécheresse exceptionnelle? Ça, c'est une question qui a des fins directement opérationnelles vis-à-vis de la problématique du régime 4 nattes. Et enfin, un dernier volet qui concerne plus les mesures constructives et curatives. Quelle est l'efficacité et le coût des différentes mesures qu'on peut mettre en œuvre? Quelles sont les mesures de confortement qu'on peut préconiser suite à un sinistre? Donc il reste quand même un certain nombre de verrous qui ne sont pas levés. Les acteurs de la recherche sur le retrait gonflement, ils sont multiples. Donc il y a des établissements publics, des institutionnels, plusieurs universités, des entreprises privées, donc notamment quelques bureaux d'études géotechniques. Et tout ce monde-là essaie de répondre à une forte demande de la part des pouvoirs publics, des assureurs, des professionnels de la construction et des particuliers. Donc je vais illustrer un peu la recherche à travers quelques tâches qu'on a menées au BRGM depuis quelques années. Donc on s'est intéressé à deux sites expérimentaux. Donc le premier, c'est le site de Mormoiron, qui est situé dans le département du Vaucluse, dans le sud de la France. Donc c'est une parcelle, on a une parcelle instrumentale qui est représentée par le carré bleu, située dans une zone fortement exposée, donc c'est la formation des sables et argiles vertes asmectites de Mormoiron. Donc on a équipé cette parcelle pour le suivi d'un certain nombre de paramètres, et on a également quelques centaines de mètres, une villa sinistrée que l'on suit par des capteurs pour suivre le comportement des fissures. Donc la villa est située sur les mêmes sols que le site. Alors très rapidement, l'instrumentation sur le site, on a installé des capteurs d'humidité depuis 2004 qui enregistrent, avec lesquels on essaie d'enregistrer l'humidité du sol jusqu'à 7 mètres de profondeur. Et on a enregistré des capteurs de déplacement, donc des extensomètres en forage, qui sont scellés à 6 ou 7 mètres de profondeur et qui enregistrent les déplacements verticaux à une profondeur un peu plus superficielle, donc comprise entre 0,2 et 1,70 m. Au niveau de la villa, on a installé des fissuromètres électroniques sur un certain nombre de fissures, de manière à pouvoir suivre l'ouverture et la fermeture de ces fissures. Donc les résultats très rapidement. Donc là, la première courbe, ça représente un suivi d'humidité sur un de nos capteurs sur le site instrumental. On constate qu'on a une très bonne réactivité de l'humidité lors des épisodes pluvieux. Donc là, on a la pluviométrie en bleu. On voit que dès qu'on a un épisode pluvieux, on enregistre un signal sur l'humidité. On constate également qu'il y a une très nette cyclicité de l'humidité avec les saisons. Donc on voit apparaître les saisons sèches qui se traduisent par une faible humidité et les saisons humides avec une plus forte humidité. Là, on n'a qu'une courbe, mais quand on les superpose, on peut apercevoir un déphasage avec la profondeur, donc la propagation de l'humidité et de la sécheresse dans le sol. Sur ce deuxième graphique, on a représenté des déplacements de sol, des déplacements verticaux du sol qui sont enregistrés, donc sachant que chaque courbe représente un capteur. Une montée du signal, ça traduit un gonflement, et une descente du signal, ça traduit un phénomène de tassement. Donc là encore, on a une cyclicité qui est bien marquée avec les saisons, puisque les périodes humides se traduisent par des phases de gonflement, et les périodes sèches se traduisent par des phases de tassement. En général, on est au tassement maximal, suivant les années, c'est au mois de septembre, voire octobre, pour certaines années. Donc sur le site de Mormoiron, on a des déplacements qui sont relativement importants, puisqu'on enregistre au niveau de la surface, on a des mouvements qui peuvent faire plus de 6 cm d'amplitude. À 1,70 m, on a des phénomènes qui restent très significatifs, qui font encore plus de 2 cm d'amplitude, alors qu'on est déjà bien en profondeur dans un sol argileux, donc relativement étanche. En termes de cinétique, on observe qu'on a des phénomènes de gonflement qui sont très rapides. Ça peut même dépasser le millimètre par heure. Donc là, c'est ce qu'on voit. Dès qu'il y a un épisode pluvieux, dans certaines périodes, on a immédiatement un gonflement important. Et au contraire, les phénomènes de tassement sont, eux, beaucoup plus lents et prolongés sur des durées beaucoup plus longues. Les vitesses ne dépassent pas, le dixième de millimètre par heure. Sur ce graphique, on compare les déplacements du sol enregistrés sur le site. Donc là, c'est par exemple la courbe rouge. Voilà, la courbe rouge représente les déplacements du sol en surface. Et toutes les autres courbes, ça représente le comportement des fissures sur la maison sinistrée qu'on a un petit peu plus loin. Donc, sachant que si on regarde par exemple la courbe rose, c'est le comportement d'une fissure verticale. Quand elle monte, ça veut dire que la fissure s'ouvre, et quand elle descend, ça veut dire que la fissure se referme. Donc on observe qu'on a une très bonne corrélation entre les phénomènes, puisque donc si on regarde cette phase-là, on a le déplacement qui descend, c'est-à-dire qu'on a un phénomène de tassement, et sur la même période, on observe très nettement une ouverture de la fissure, donc ça correspond à la mécanique du phénomène. On a un affaissement du sol sur les pourtours de la maison, et une fissure verticale qui tend à s'ouvrir en V. Et inversement, en période humide, on observe des dégonflements sur le site, au niveau des capteurs de déplacement, alors que sur la maison, on observe de la même manière une fermeture des fissures. Donc au final, avec ce matériel, on a réussi à visualiser l'intégralité du site, des cycles, donc l'enchaînement précipitation, humidification du sol, phénomène de gonflement, ouverture des fissures, fermeture des fissures, pardon. Et donc le cycle inverse, en période de sécheresse, on observe la dessiccation du sol, les phénomènes de tassement et l'ouverture des fissures qui les accompagnent. Un deuxième site instrumenté qu'on a plu, mais qui était situé à Mignaloux-Beauvoir, donc juste à côté d'ici, c'était le site du Défend. Donc la géologie, c'était le complexe des Bornets, donc une formation argilo-sableuse, relativement hétérogène. Donc lors de la cartographie d'aléas, cette formation avait été jugée en aléa moyen. Donc on a travaillé avec l'université de Poitiers à l'époque sur ce site, qui a identifié trois unités lithologiques distinctes, donc des limons peu argileux en surface, une argile limoneuse un peu plus profondément, et en profondeur des argiles bariolées. Donc on a des sols qui sont finalement relativement peu argileux en surface et qui deviennent plus argileux en profondeur. Donc ce site avait été instrumenté à peu près de la même manière que le site de Mormoiron, donc avec des capteurs d'humidité et de déplacement. Malheureusement, on a dû l'abandonner il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, pour des problèmes matériels. Donc là, sur la première courbe, on a représenté... Non, c'est pas des teneurs en eau, c'est des déplacements. C'est des déplacements enregistrés sur ce site. Bon, les résultats sont relativement similaires à ce qu'on a pu voir sur Mormoiron. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une amplitude qui est beaucoup plus faible à ce qu'on avait dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, on avait des mouvements qui pouvaient dépasser les 6 cm d'amplitude. Sur le site du Défend, on a dépassé les 2 cm d'amplitude en surface. Mais donc on est quand même avec des mouvements qui restent très faibles par rapport à ceux qu'on a dans le sud. Ceci dit, par contre, on est dans une formation très hétérogène. Donc des désordres peuvent aussi être induits par ces hétérogénéités-là. Alors que dans le Vaucluse, on est plutôt sur des sols, je ne vais pas dire homogènes, mais beaucoup plus homogènes. Les vitesses sont également beaucoup plus faibles qu'à Mormoiron. On voit que les gonflements, ils sont... Je ne me rappelle plus l'ordre de grandeur. Ils sont 10 fois plus lents qu'à Mormoiron. Le retrait également. Mais on a quand même une très bonne corrélation des phénomènes. Alors en fait, sur le graphique du bas, on a représenté en rouge... Donc en croisant les différentes informations de nos capteurs, ce qui représenterait l'épaisseur d'une couche comprise entre 10 cm de profondeur et 1,50 m de profondeur. Donc on peut imaginer cette couche-là, et on a représenté ces variations d'épaisseur au cours du temps. Et la courbe bleue, elle, représente les variations d'humidité dans cette couche, à 50 cm de profondeur. Donc on constate qu'on a des phénomènes qui sont très bien corrélés, et des périodes de gonflement qui correspondent aux périodes d'humidification, et inversement. Quelques mots rapidement sur les autres actions qu'on a été amené à réaliser ou qu'on est encore en train de réaliser. On a travaillé sur les moyens de relier de manière analytique les différents paramètres, c'est-à-dire que le cycle qu'on a pu visualiser sur les sites instrumentés, précipitation, humidité, déplacement et sinistre, on a essayé de le quantifier de manière numérique, mais ça reste très très difficile. On s'est intéressé à une technique qui s'appelle l'interférométrie radar différentielle, donc qui consiste à analyser des images radar satellitaires pour enregistrer des déplacements. Pour l'instant, on n'a pas eu de résultats opérationnels de ce point de vue-là, même si on arrive à voir des déplacements. Pour identifier des argiles sensibles, Il y a également une thèse qui a été menée par notre centre thématique à Orléans sur l'identification des minéraux argileux à partir de spectrométrie infrarouge. Et on s'intéresse désormais à des techniques de gammamétrie, soit aéroportées, soit des gammamétries au sol, pour essayer de cartographier les minéraux sensibles à l'échelle d'une parcelle. En conclusion, le retrait gonflement, c'est un phénomène qui est très commun, très courant, mais qui est extrêmement coûteux pour la collectivité. Les conséquences peuvent être graves en termes financiers pour des épisodes de type 2003. Les réparations d'un sinistre, c'est quelque chose de très lourd à mettre en œuvre, de très coûteux, de pas forcément très fiable. Mais par contre, on a des moyens de prévention qui sont simples, efficaces et à un coût restreint. Enfin, on estime qu'un forfait de mesure, c'est à peu près 10% de surcoût sur la maison. Alors qu'un sinistre, ça peut être 100% de surcoût. D'où l'importance de bien connaître l'aléa et de bien prendre en compte le phénomène avant construction. Donc malgré cela, il y a des questions qui restent en suspens. Voilà, je vous remercie, j'ai été un peu long.
Merci. Merci beaucoup. Et puis maintenant, on va donc passer aux questions. Mais c'était très très complet, mais vous avez peut-être encore des questions, ou si vous voulez que M. Leroy revienne sur quelque chose de la présentation, ou que Mme Dugrillon complète donc son exposé sur les Poitou-Charentes.
Au début, vous avez parlé, quand vous parliez des argiles, des différentes sortes d'argiles, vous avez parlé des kaolinites, des illites et des smectites. Oui. Et vous avez dit qu'il y avait plusieurs sortes de smectites.
Disons qu'on peut distinguer plusieurs familles. Alors, je ne les ai pas forcément en tête. Il y a au moins les momorionites qui font partie des smectites, qui sont également très sensibles. Comme ça, j'ai pas d'autres. Je vous avouerai que j'ai pas d'autres familles en tête. Dans l'immédiat.
Des interstratifiés.
Je peux poser. Et pour les fissures longitudinales qu'il y avait sur les routes, sur une certaine diapositive, comment vous expliquez ce phénomène en fait? Pourquoi elles sont forcément longitudinales, souvent longitudinales?
Disons que après ça dépend de la manière dont a été faite la route en termes de couche de forme, de support, etc. Mais c'est le même phénomène que pour la maison, c'est-à-dire que le sol qui est situé immédiatement sous la route va être protégé de la dessiccation. Donc on peut supposer que celui qui est au milieu sous la route ne va quasiment pas bouger. Par contre, tout ce qui n'est pas imperméabilisé par du bitume va subir de l'évapotranspiration, donc va tasser en période de sécheresse, et on va avoir au final un gradient de mouvement entre le centre de la route et les pourtours. Donc on va avoir une fissuration longitudinale sur la route. C'est le cas le plus classique. J'ai déjà vu des fissures dans l'autre sens, je ne sais pas trop comment on les explique. Comme je n'ai pas travaillé beaucoup sur les routes, je n'ai pas eu non plus la question à me poser.
D'accord, merci. J'avais deux petites questions. La première question, c'était relatif au résultat des différents programmes de recherche qui avaient été menés sur ce sujet-là. J'avais cru comprendre qu'il y avait un élément qui était aussi très important que vous avez soulevé, qui était l'état de compacité initiale du sol, qui est en fait pas vraiment un paramètre intrinsèque au sol, qui dépend aussi un peu de son histoire. Comment on peut évoluer au niveau des recherches pour mieux caractériser ce paramètre?
Ça c'est pas facile, parce que disons que nous, dans les projets de recherche, on a beaucoup de partenaires, et on a en particulier donc des partenaires qui s'intéressent de près à ces questions de structure et de laboratoire. Nous, on fait pas de laboratoire sur ces projets de recherche là, on en fait sur d'autres. Donc là, je vous avouerai que j'ai pas forcément d'inspiration pour répondre à cette question sur la compacité. Je crois qu'effectivement, l'équipe de Poitiers avec qui on travaillait sur le site du Défend s'y était intéressée de mémoire. Et après,
J'avais une autre petite question aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'était les travaux de recherche liés à la spectrométrie infrarouge. On a des collègues au labo là qui travaillent beaucoup sur ces questions-là. Il y a des choses qui émergent sur ce signal-là.
Alors là, c'est pas vraiment moi qui ai suivi. Ce que je sais, c'est que on peut avoir des résultats. Enfin, on arrive à avoir des résultats sur éprouvette, disons en laboratoire. Alors si je me souviens bien, je suis pas sûr de moi, c'est, je crois que les kaolinites se distinguent relativement bien, mais que le reste, c'est un peu enfouillé.
Oui,
et puis dès qu'on essaye d'aller sur le terrain, ça devient tout de suite plus compliqué, puisqu'on n'est plus en condition de laboratoire avec des mélanges maîtrisés. Donc là, on travaille, enfin, on a eu une thèse avec l'Université de Toulouse, donc, qui était suivie par notre centre à Orléans. Et on travaille également avec la fac de Nantes sur cette question-là. Donc on a commencé déjà à comparer quelques analyses qu'on avait faites dans le département de la Mayenne. Mais là, c'est les balbutiements. C'est les balbutiements. À part les résultats de cette thèse qui sont arrivés à ces résultats-là, on n'est pas allé plus loin pour l'instant.
Ok, merci.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je remercie à nouveau donc mes deux intervenants. Et puis merci également pour les personnes présentes. Et puis bonne fin de soirée. Puis juste une dernière indication, la prochaine conférence liée à l'exposition sur les argiles aura pour thème donc les argiles sur la planète Mars. Et donc aura lieu le 23 mars prochain. Donc rendez-vous à la fin du mois. Merci encore. Bonne fin de soirée.